Il est 17h à Paris, 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. Dans l'actualité, la mort de Mohamed Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Elle a été annoncée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou au 600e jour de guerre. Mohamed Sinwar aurait été tué le 13 mai dernier dans une frappe israélienne. Emmanuel Macron est en Indonésie, pays musulman le plus peuplé du monde. Une solution à deux États au Proche-Orient a été abordée avec son homologue Prabowo Subianto, à suivre dès le début du journal. Autre visite, celle qu'effectue le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Allemagne. De nouveaux accords sur des investissements dans la défense ont été conclus. En France, déception des victimes au procès de Joël Skouarnec. L'ancien chirurgien a été jugé pour de très nombreux viols et agressions sexuelles. Il a été condamné à 20 ans de réclusion, dont 2/3 de période de sûreté. La tournée d'Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est s'est poursuivie aujourd'hui avec une étape indonésienne. Le président français a été reçu à Jakarta par son homologue Prabowo Subianto. Les deux dirigeants ont évoqué la reconnaissance de la Palestine alors qu'approche une conférence de l'ONU sur le sujet le mois prochain. Envoyé spécial de RFI à Jakarta, Nicolas Roca, que faut-il retenir de cette visite ?
D'abord des mots rares ce mercredi, ceux de Prabowo Subianto, président de l'Indonésie, pays qui ne reconnaît pas Israël. Il a officialisé au plus haut niveau la ligne officielle de Jakarta, celle d'une solution à deux États.
L'Indonésie a indiqué qu'une fois qu'Israël aura reconnu un État de Palestine, elle sera prête à reconnaître Israël et à établir des relations diplomatiques.
Il a également évoqué le droit d'Israël à assurer sa sécurité, une sortie sensible dans le pays musulman le plus peuplé de la planète. En témoigne la première question posée à Emmanuel Macron par les étudiants venus le rencontrer à l'université d'État de Jakarta. Elle portait sur la guerre à Gaza.
Ce que nous allons faire, c'est déclencher un mouvement de reconnaissance de l'État palestinien, mais sous certaines conditions. Libération des otages, démilitarisation du Hamas, pas de participation du Hamas, mais aussi le fait que cet État palestinien doit reconnaître l'État israélien et son droit à se protéger. Et c'est la seule manière, et votre président ce matin a fait un discours très important, le jour où Israël reconnaîtra la Palestine, je reconnaîtrai Israël.
À l'approche de la conférence sur une solution à deux États en juin à l'ONU, le président de la République tente de mobiliser sur le sujet en Asie du Sud-Est. Prochaine étape, son grand oral au dialogue de la défense de Shangri-La ce vendredi. Nicolas Roca, Jakarta, RFI.
Après le Vietnam et l'Indonésie, c'est à Singapour qu'Emmanuel Macron achèvera son voyage en Asie. Au 600e jour de guerre avec le Hamas, Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël a tué Mohamed Sinwar, considéré comme le chef du mouvement islamiste palestinien à Gaza. Le Premier ministre l'a annoncé aujourd'hui lors d'une session au Parlement. Selon cette fois des médias israéliens, Mohamed Sinwar, frère de Yahya Sinwar, lui aussi tué, est mort le 13 mai dernier lors d'une frappe israélienne à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Des milliers de Gazaouis affamés pris dans un mouvement de foule. Scène de chaos déchirante hier à Rafah, dans le sud du territoire, là où des milliers de Palestiniens sont victimes de la famine. Aujourd'hui, l'ONU fait état d'au moins 40 blessés, la plupart par des tirs israéliens. Ces scènes illustrent le nouveau système de distribution d'aide mis en place par Israël. Elles ont suscité de vives critiques de la part des organisations humanitaires et onusiennes. Israël a par ailleurs lancé aujourd'hui des frappes sur l'aéroport de Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par des rebelles houthis. Des frappes de représailles au lendemain de 2 tirs vers Israël. Elles ont détruit le dernier avion de cet aéroport de Sanaa. Autre titre dans l'actualité du jour, la visite en Allemagne de Volodymyr Zelensky jusqu'à demain. Le président ukrainien a rencontré le chancelier Friedrich Merz, l'un de ses principaux soutiens en Europe. Plusieurs annonces ont suivi leurs entretiens. Nathalie Versieux.
Le nouveau chancelier mise notamment sur la production d'armes en Ukraine avec le soutien d'industriels allemands.
Wir gehen heute einen ersten Schritt in einer entsprechenden.
Nous faisons aujourd'hui le premier pas dans une nouvelle coopération entre nos deux pays, dans la production d'armes à longue portée avec l'Ukraine, entre l'Allemagne et l'Ukraine. Ce sera une coopération au niveau industriel qui pourra avoir lieu aussi bien ici, en Allemagne, qu'en Ukraine. Vous pouvez partir du fait que le refus des Russes de mener des discussions sérieuses en vue d'un cessez-le-feu a désormais vraiment des conséquences.
Le nouveau chancelier a par ailleurs assuré que l'Allemagne fera tout pour empêcher la mise en route du gazoduc Nord Stream 2 qui devait approvisionner la République fédérale en gaz russe bon marché, en partie détruit dans le cadre d'un attentat non élucidé mais attribué aux services de renseignements ukrainiens selon des sources proches de l'enquête. Nord Stream 2 est au bord de la faillite. Il semble intéresser des hommes d'affaires proches de Moscou, une tentative de faire renaître le projet que Berlin est décidé à torpiller. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et avant d'être reçu à Berlin, Volodymyr Zelensky avait proposé une rencontre à trois avec les présidents américains et russes, proposition repoussée par le Kremlin.
Radio France Internationale.
Aux États-Unis, rien ne va plus entre Donald Trump et Elon Musk. Dans une interview, le multimilliardaire, propriétaire de Tesla et de SpaceX, critique sans ménagement la grande réforme fiscale voulue par le président. Elon Musk, qui, pour des questions de compatibilité, a dû renoncer à son poste de directeur du Doge, le fameux département de l'efficacité gouvernementale. Dans l'actualité des entreprises, cette fois, nouveau patron pour le géant de l'automobile Stellantis, groupe italo-franco-américain, le conseil l'administration a nommé Antonio Filosa au poste de directeur général. L'Italien de 51 ans succède à Carlos Tavares dans un contexte difficile. Les ventes de Stellantis ont chuté l'an dernier, surtout aux États-Unis. Agnieszka Kumor.
L'arrivée d'Antonio Filosa à la tête de Stellantis n'est pas une surprise. L'Italien était l'un des profils internes favoris depuis la mise à l'écart de son prédécesseur fin 2024. Entré chez Fiat en 1999, cet ingénieur de formation a fait toute sa carrière au sein du groupe italien avant d'être promu fin 2024 directeur pour l'Amérique du Nord et du Sud chez Stellantis, devenu entre-temps le géant français. Franco-italo-américain. C'est grâce à lui que la marque Fiat est devenue leader du marché sud-américain. À présent, bon nombre de défis l'attendent. Carlos Tavares a fait de la chasse au coût son mot d'ordre, mais la qualité décevante de certains modèles et des tarifs trop élevés ont provoqué l'effondrement des ventes du groupe aux États-Unis et ont poussé Carlos Tavares vers la sortie. Il faudra à Antonio Filosa toute son expérience et courage pour redresser la barre. Le nouveau directeur général de Stellantis prendra ses fonctions le 23 juin prochain.
Agnieszka Kumor. En France, le verdict au procès de Joël Le Skouarnec, l'ancien chirurgien jugé pour de très nombreux viols et agressions sexuelles. Il écope d'une peine de 20 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Peine prononcée par la cour criminelle du Morbihan, aujourd'hui à Vannes. Elle a déçu et même provoqué la colère des victimes qui attendaient une sentence plus lourde. En France, toujours, ce que redoutaient les écologistes est arrivé. La cour administrative d'appel de Toulouse a autorisé la reprise du chantier de l'autoroute Toulouse-Castres, chantier fortement contesté par les défenseurs de l'environnement. La déception est grande chez ces derniers, même si la cour doit encore trancher sur le fond du dossier. Igor Strauss.
Ni l'occupation des arbres par des militants écologistes pour empêcher leur abattage, ni les grèves de la faim et de la soif de certains opposants, ni même une décision de justice n'arrêteront le chantier de cette autoroute si contestée. Alors pour Jean-Baptiste Gibon, le coprésident du groupe national de surveillance des arbres, la déception est immense.
On est tous consternés, dégoûtés. Le 27 février, on avait une décision historique en ce qui concerne le droit environnemental. Pour une fois, la loi était respectée. Et là, aujourd'hui, on a un rapporteur public qui a outrepassé le droit environnemental et on a des manœuvres politiques et judiciaires qui sont absolument scandaleuses.
Les défenseurs de l'environnement comptent désormais sur la décision en appel, mais sans grand espoir. Jean-Baptiste Gibon.
Toutes les infractions qui ont été relevées par rapport à des non-respects de mesures environnementales ou même de non-respect directement de leur contrat de concession, ça veut dire que tout ça, on l'efface.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a salué cette décision et annoncé la reprise des travaux à partir de mi-juin. Mais pour les défenseurs de l'environnement, une question reste en suspens.
La justice, ça marche pas. Le droit environnemental ne marche pas. La contestation ne marche pas, puisque la mobilisation ne marche plus. Qu'est-ce qui nous reste ?
Thomas Braille, figure de la contestation, s'est dit atterré et a annoncé qu'il entamerait une grève de la soif dès la reprise des travaux.
Enfin, un mot du tennis à Roland-Garros, ça passe pour l'Espagnol Alcaraz. En revanche, le tournoi s'arrête déjà pour le Norvégien Casper Ruud, ancien finaliste. Prochain journal sur RFI, 18h, le journal en français facile d'Adrien Delgrange. Tout de suite, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, il est 17h10. À Paris, sur le Pont des Arts, ça démarre dans 30 secondes.